Alors aujourd'hui, on est sur, en fait, après le baptême, et donc on est sur la suite du baptême et le renouveau dans l'esprit. Alors le point va être de se dire que, bah, normalement au baptême, on a reçu l'Esprit Saint une fois pour toutes. Donc du coup, on se pose la question de la confirmation, dont on a déjà un tout petit peu parlé, mais là, c'est plutôt dans le cadre de bah, qu'est-ce que ça enrichit et qu'est-ce que ça apporte de plus que le baptême. Et puis, toutes les thématiques autour du renouveau et les fusions de l'esprit. Donc on regardera comment à la fois les rites et à la fois la pédagogie de Dieu fait grandir, fortifier et envoie. Et du coup, comment la confirmation accomplit le baptême et comment les dons et charismes du Saint-Esprit se déploient et que sont orientés pour l'édification de l'Église et une plus grande disponibilité de chacun, une meilleure configuration au Christ. Alors, la première chose, c'est la confirmation, puisque c'est ce qui intervient et qui est un vrai sacrement. Donc, je vous ai mis quelques références de textes. Donc, le premier, dans les Actes des Apôtres, ça tombe bien parce qu'on est au temps pascal, donc on est en plein dans les Actes des Apôtres. Il y a notamment un des textes qu'on a lu hier, je crois. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Et puis un autre, un peu plus loin dans les Actes des Apôtres. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Et donc ça, c'est deux thématiques. On voit bien qu'il y a un baptême et ensuite l'Esprit Saint. Enfin, une confirmation, une deuxième fois l'Esprit Saint. Et puis dans Hébreux, la lettre aux Hébreux, dès lors, laissons de côté l'enseignement élémentaire sur le Christ et levons-nous à la perfection d'adulte au lieu de poser une nouvelle fois les fondements, à savoir conversion avec rejet des œuvres mortes, foi en Dieu, instruction sur les baptêmes et l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement définitif. Donc là, on a bien les deux thématiques aussi, les baptêmes, alors avec un pluriel, je ne sais pas très bien pour quelle raison, et l'imposition des mains qui sont bien deux choses séparées. Alors ce qu'on peut voir, c'est que dans tous ces textes, c'est le rite est une prière avec imposition des mains. Et de même, on a... alors qu'en fait, là, la confirmation, c'est principalement l'onction qui crée la confirmation. Donc, c'est un peu curieux de se dire que, finalement, l'imposition des mains n'a pas été gardée telle qu'elle. Alors, on peut penser à l'Apocalypse, qui dit « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, marqué du sceau, c'est bien oindre. Donc, voilà, dans l'Apocalypse, on parle de cette onction. Alors, je vous ai mis un grand texte ensuite sur le catéchisme de l'Église catholique qui explique que le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint jusqu'à en devenir le synonyme. Il y a des références dans Corinthiens et dans la première lettre de Saint Jean. Dans l'initiation chrétienne, elle est le signe sacramentel de la confirmation, appelé justement dans les églises d'Orient chrismation. Chrismation, ça veut dire onction, hein. Christ, c'est l'oint. Pour en saisir toute la force, il faut revenir à l'onction première accomplie par l'Esprit Saint, celle de Jésus. Christ signifie « oint de l'Esprit de Dieu ». Jésus est loin de Dieu d'une manière unique. L'humanité que le Fils assume est totalement ointe de l'Esprit Saint. Jésus est constitué Christ par l'Esprit Saint, donc dès la conception par la Vierge Marie. Et ensuite, Siméon qui le confirme quand il vient au temple voir le Christ du Seigneur. Ensuite, c'est l'Esprit Saint qui emplit le Christ et dont la puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut. Et c'est lui enfin qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Ainsi, constitué pleinement Christ dans son humanité victorieuse de la mort, Jésus répand à profusion l'Esprit Saint jusqu'à ce que les saints, donc tout le peuple de Dieu, constituent dans leur union à l'humanité du Fils de Dieu cet homme parfait qui réalise la plénitude de Dieu. Le Christ total, selon l'expression de saint Augustin. Donc ça nous montre bien qu'il y a la confirmation, c'est de nous oindre comme le Christ quelque part qui est loin du Saint-Esprit, et donc on est dans cette continuité. Donc le baptême était à l'image plongé dans la mort et la résurrection du Seigneur, et le rite de la confirmation, c'est oindre comme Jésus a été oint par l'Esprit-Saint de toute l'éternité. Donc on a les deux éléments qui sont d'ailleurs toujours présents dans le rite de confirmation. On a d'une part l'onction avec une huile qui a été préparée à part des autres huiles. Donc à la messe chrismale, pas longtemps, il y a trois types d'huiles qui sont consacrées, dont une qui sert pour la confirmation, on la nomme le Saint Crème. C'est un mélange d'huile et de baume. Et les deux autres huiles, c'est pour l'onction des évêques et l'onction des malades. L'imposition des mains, geste hérité de l'Ancien Testament, signifiant la transmission d'une réalité invisible et qui est présente dans tous les sacrements. Et donc ces deux gestes s'enracinent dans la même symbolique, communication de l'esprit, invasion du sujet par lui. Alors récemment, parce qu'au début, il y avait un certain flou sur la confirmation, alors au début, pendant des siècles, un certain flou sur la confirmation, c'est-à-dire à quel moment était vraiment le sacrement de la confirmation. Et on le plaçait plutôt à l'imposition des mains. D'ailleurs, c'est étonnant parce que le rite de l'ordination, il y a aussi une imposition des mains et une onction. C'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'était plutôt l'onction qui était considérée comme ce qui faisait le sacrement. Et en fait, au fil du temps, ça s'est clarifié. Et du coup, côté ordination, c'est l'imposition des mains qui est le moment vraiment du fait qu'ils sont ordonnés prêtres. Alors que pour la confirmation, c'est l'onction qui est le moment clé de la confirmation. Mais dans tous les cas, de toute façon, des deux côtés, il y a les deux. Donc il y a quand même le geste, l'imposition des mains de l'évêque, qui quand même fait partie du rituel. Donc elle est quand même, c'est quand même les deux gestes qui sont là. Voilà. Et donc la liturgie rénovée à la suite de Vatican II s'est prononcée en déclarant que le geste essentiel était l'imposition individuelle de la main de l'évêque sur la tête du confirmant, accompagnée de l'onction sur le front et de la parole, soit marquée du Saint-Esprit. Donc ça, c'est avec cette phrase-là qu'on a la confirmation. Alors un autre aspect sur la confirmation, c'est que c'est l'aboutissement du baptême. Il y a comme un continuum entre le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. D'ailleurs, plus précisément, entre le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, j'aurais dû le mettre dans cet ordre-là. Même si là, c'était pour exprimer le fait qu'il y avait une sorte de progression, puisque le baptême peut être donné par un diacre, l'Eucharistie clairement par le prêtre, enfin, c'est lui qui crée, qui consacre l'hostie, et puis la confirmation qui est donnée par l'évêque. Donc quelque part, tous ces sacrements d'initiation sont ordonnés à l'Eucharistie, mais c'est clairement et tout spécialement vrai de la confirmation, qui est le sacrement qui est introduit à l'Eucharistie. Et donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de reproches des églises orientales, des orthodoxes, de faire la confirmation après la première communion, parce que du coup, il y a une sorte d'incohérence par rapport à cette confirmation qui est introduite dans l'Eucharistie. Donc l'imposition des mains, c'est un geste à portée sacrificielle. Et l'onction d'huile parfumée nous rend capable de nous offrir en sacrifice d'agréable odeur, nous unissant au sacrifice parfait du Christ. Donc c'est en ce sens-là que la confirmation, par la confirmation, l'Esprit-Saint fait de nous une éternelle offrande à la gloire de Dieu le Père. Et donc entre le baptême et l'Eucharistie, c'est le sacrement du don, don de Dieu qui vient donc plaigner du Saint-Esprit, et puis don de soi en retour, puisqu'on est appelé témoin. Très belle phrase de saint Augustin qui dit « Vous avez été préalablement moulu par l'humiliation des jeûnes et les cérémonies de l'exorcisme. » Ça, c'est la partie préparation catéchuména. « Puis s'est ajoutée l'eau du baptême qui vous a humecté en quelque sorte pour vous faire prendre la forme du pain. Mais le pain ne le devint qu'après avoir été passé par le feu. Et qu'est-ce qui représente le feu? C'est le Saint-Crème, l'huile qui représente notre feu et le sacrement du Saint-Esprit. L'Esprit-Saint vient donc, après l'eau, vient le feu, et vous devenez pain, c'est-à-dire le corps du Christ. » Donc c'est toujours très littéral quand ils prennent les choses, les pères de l'Église, saint Augustin aussi. Et du coup, il prend vraiment chaque item et il le met en correspondance. Et donc du coup, on devient comme un pain, comme le pain du corps du Christ qui s'offre pour le salut du monde et par lequel on s'offre aussi. Voilà, il y a vraiment une grave anomalie à ce qu'un baptisé ne soit jamais confirmé. Le baptême portant en lui le vœu de la confirmation et la confirmation étant le sceau du baptême. Et donc, un baptisé qu'on ne confirme pas est un peu comme un enfant que l'on empêche de grandir. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour appeler les adultes, tous ceux qui n'ont pas été confirmés, à... voilà. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'à la Pentecôte, on a souvent une flopée de confirmations de gens de tous âges. Voilà. Et c'est vraiment important parce que finalement, ça, voilà, il y a une sorte d'inachèvement quand on a le baptême sans la confirmation. Alors, qu'est-ce que produit la confirmation en tant que telle ? Donc, le baptême, il a d'abord un aspect négatif, c'est rompre l'enchaînement du péché. Donc, ça, c'est fait et donc, c'est pas renouvelé par la confirmation. Même si, comme dans tous les sacrements, il est demandé de renoncer au péché avant de proclamer la foi. Et ça, c'est plus aussi notre partie subjective. Donc, positivement, le baptême, c'est pas qu'un aspect négatif, hein, c'est pas seulement nous couper du péché, mais c'est aussi le baptême nous donne la vie nouvelle, la vie du Christ ressuscité et l'incorpore au corps du Christ qu'est l'Église. Et donc, c'est sur cette vie nouvelle, cette incorporation à la vie divine, œuvre de l'Esprit-Saint, que la confirmation va apporter un regain d'action. Alors, notre expérience humaine nous montre que bien des choses ont besoin d'être parachevées. L'Esprit donné à un croyant débarrassé de la lourdeur du péché originel va lui procurer l'élan nécessaire pour entrer plus avant dans cette vie avec le Christ, de cette vie en Christ. Le baptême, comme entrée dans l'Église, a lui aussi besoin d'être renforcé par la confirmation, que l'action de l'Esprit fasse progresser le croyant dans la vie d'Église par différents engagements et en particulier par le témoignage. Donc le Père Lacoste parle de l'infusion de la foi dans le baptême à la confession de la foi après la confirmation. Donc c'est comme s'il y avait le temps s'étirait entre le baptême et la confirmation. Alors aussi parce que le baptême, quand il est donné à un tout nouveau-né, il y a aussi de grandir aussi... humainement, et du coup la confirmation vient quelque part parachever l'entrée. Donc c'est pour ça qu'on attend souvent un peu plus âgé pour avoir la confirmation, pour justement manifester cette possibilité de confesser la foi. C'est clair qu'on sait qu'il y a les saints innocents et donc ils sont martyrs et donc ils ont confessé leur foi, mais un peu en étant muets, alors que là pour la confirmation on est plutôt appelé à la confesser plus publiquement. Voilà. Donc, dans un texte attribué au pape Miltiade, il y a des tas de papes inconnus au bataillon que j'ai découvert là. Bon, enfin, le texte, on n'est pas sûr que ce soit de lui, donc avec tout ça, voilà. Dans le baptême, nous sommes régénérés pour la vie. Après le baptême, nous sommes confirmés pour le combat. Dans le baptême, nous sommes lavés. Après le baptême, nous sommes fortifiés. Et tous les auteurs médiévaux parlent du sacrement de la confirmation comme une force qui est donnée, rebours, l'affermissement qui permet d'aller jusqu'au martyr. Saint Thomas d'Aquin parle des soldats du Christ pour les confirmer. Et nous, on parle dans une version plus moderne d'une confirmation qui nous fait témoin. Martyr, ça veut dire c'est témoin, c'est le même mot. Mais témoin aussi dans un sens peut-être plus soft que martyr. C'est la même idée de nous donner la force pour le combat. C'est aussi le combat de la vie spirituelle, donc c'est aussi ça que le Saint-Esprit nous arme pour être ça, et on le verra dans la deuxième partie avec les dons du Saint-Esprit. Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d'une force spéciale dans l'Esprit-Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Donc il y a vraiment cette idée de force pour le témoignage et pour la défense de la foi et même l'annonce de la foi. Parce que, comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligation et jouissent du droit, individuellement ou groupé en association, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que des hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ, typiquement quand on est loin. Dans des pays où il n'y a pas forcément de prêtres. Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que sans elle, l'apostolat des pasteurs ne peut la plupart du temps obtenir son plein effet. Donc on a vraiment un rôle, en tant que confirmé, un rôle dans l'Église d'annonce de la foi qui est plein et entier. Voilà. Il nous dit le catéchisme de l'Église catholique qui est même nécessaire, sinon il n'y aura pas le plein effet de l'apostolat des pasteurs. Alors, on peut parler d'un sacrement de la surabondance. Je vous mentionne dans le Dans les évangiles, Jésus, ou Dieu, généralement, fait souvent deux fois les mêmes gestes, comme s'il y avait une sorte de confirmation du geste. Donc on peut penser aux deux multiplications des pains. La première étant adressée au peuple d'Israël, avec les 12 paniers, qui sont les 12 tribus d'Israël. Et la deuxième multiplication des pains, elle est en territoire païen. Il y a 7 paniers pour la totalité des nations, totalité du monde. Et donc, on a cette ouverture et cet élargissement du deuxième, qui est le premier et quelque part consolide. Et puis le deuxième, il élargit, il ouvre. Voilà. Et on l'a encore plus vrai pour le don du Saint-Esprit, puisqu'en fait, on l'a eu là dès le soir même de la résurrection. Jésus a soufflé sur les apôtres quand il apparaît toute porte close et qu'il leur dit « Recevez l'Esprit Saint » et il souffle sur eux et il leur met l'Esprit Saint. Mais là, on voit bien que c'est à ce moment-là, les apôtres sont cloîtrés, ils sont enfermés, ils ont peur et c'est pas à ce moment-là qu'ils sortent beaucoup. Ils restent, mais ils ont déjà reçu l'Esprit Saint qui va leur permettre de cheminer, d'aller en Galilée et peut-être d'aller plus loin avec le Christ. Et c'est à la deuxième, donc à la vraie Pentecôte, 50 jours plus tard, là ils sont remplis d'Esprit Saint et là ils sortent et ils annoncent la parole de Dieu. Donc on voit bien ce deux temps du Saint-Esprit, comme le baptême où on est quelque part de façon un peu privée, on reçoit le Saint-Esprit et ça y est, on est marqué du Saint-Esprit. Mais il nous faut un deuxième temps, il y a un deuxième sacrement, une deuxième onction du Saint-Esprit pour pouvoir élargir et ouvrir à l'annonce de la foi. Dieu tient compte d'une première réaction avant d'opérer une seconde venue et d'approfondir. Il vient toucher plus précisément certains points en nous. On sait que la confirmation, elle est à la fois l'actualisation du sacrement du baptême, donc vraiment le Saint-Esprit est plénier dans toutes ses dimensions, mais il y a quelque chose de comme si le baptême, ça restait un peu virtuel, et là, on est tourné vers l'action, et notamment l'action d'annonce. Donc c'est aussi plus précis comme action du Saint-Esprit. Elle nous fait plus complètement chrétiens pour aujourd'hui, donc avec notre place dans le monde et ce qu'on doit faire à là où on est et dans notre charge. Et la confirmation donne comme un éclat, une brillance aux chrétiens par le Saint-Esprit qui nous est monnayé comme une extension à tout notre être. Le baptême, c'est l'eau qui purifie. Et le Saint-Esprit, c'est comme un éclat. Quand vous avez de l'huile sur le front, voilà, c'est brillant. Voilà, c'est cette idée de petite agréable odeur aussi, puisque c'est souvent parfumé, de l'huile parfumée. Donc voilà un peu pour la confirmation. Après, je voulais creuser les dons du Saint-Esprit. Alors, en fait, ils sont mentionnés. Donc à la confirmation, vous avez une très belle prière que dit l'évêque quand il impose les mains. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton fils, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Et donc là, on a dans cette phrase-là, elle reprend presque mot pour mot la prophétie d'Isaïe, qui disait exactement « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement ». Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Et donc, on a quasiment mot pour mot avec le binôme intelligence ou discernement, crainte du Seigneur et affection filiale, qui sont deux façons de dire la même chose. Mais donc, on a vraiment ce continuum, puisque cette prière, elle reprend Isaïe. Donc, Isaïe, on est loin dans la Bible. Si on regarde dans le Nouveau Testament, on n'a pas la même liste des dons du Saint-Esprit que celle qui est dite à la confirmation et que donc est sourcée d'Isaïe. Donc dans 1 Corinthiens, on a à celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, donc ça c'est le même, à un autre une parole de connaissance, là c'est la même chose, selon le même esprit, un autre soit dans le même esprit un don de foi, donc là on a autre chose, ce sont plutôt des vertus théologales, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison, dont on n'a pas parlé avec Isaïe. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Donc on n'a pas tout à fait la même liste des dons. Et si je prends dans Romains, on a encore une autre liste de dons. Selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Du coup, il est clair, tous sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié, si c'est le don de servir que l'on serve, si l'on est fait pour enseigner que l'on enseigne, pour réconforter que l'on réconforte, celui qui le donne qu'il soit généreux, celui qui dirige qu'il soit empressé, celui qui pratique la miséricorde qu'il ait le sourire. J'aime bien le dernier surtout. Donc on a des listes différentes, mais c'est la surabondance aussi de l'esprit, donc on ne peut pas canaliser tout ça dans quelques mots. Mais quand même, ces sept dons du Saint-Esprit qui sont dits à la confirmation, donc viennent d'Isaïe, et ont été mis en valeur, ou en tout cas portés de façon plus importante par saint Thomas d'Aquin. Donc c'est pour ça qu'on parle de ces sept dons-là, qui sont restés, parce qu'il a beaucoup, il a fait toute une partie sur les sept dons du Saint-Esprit. Alors, il fait la différence entre les vertus théologales et morales infuses, donc vertus de foi, espérance, charité, et puis les vertus morales, qui sont des habitus qui rendent l'homme capable d'agir bien selon la raison éclairée par la foi. Et donc c'est plutôt un système de règles intérieures stables de l'agir chrétien. Donc les vertus théologales, c'est typiquement ce qu'on reçoit aussi au baptême. Voilà, on a le nom de la foi, d'espérance et de la charité. Mais il y a des situations où l'agir humain a besoin d'être mû par Dieu d'une manière plus immédiate. Et donc les dons du Saint-Esprit sont alors des habitus qui rendent l'homme docile aux motions de l'esprit. Donc il y a quelque chose qui nous est donné en vertu stable, de façon stable. Et puis, il y a des motions du Saint-Esprit, des dons qui peuvent être ponctuels, plus ou moins stables, et qui permettent de nous rendre dociles au Saint-Esprit, et donc de pouvoir pratiquer. Donc, autrement dit, la règle n'est plus seulement la raison même informée par la foi, mais l'impulsion divine. Donc, c'est plus seulement suivre des commandements, mais quelque part, c'est recevoir le don de Dieu et être mu par le Saint-Esprit. Les dons présupposent les vertus, donc ce n'est pas en opposition. Ils s'appuient sur elles, ils les perfectionnent en les portant à un mode d'agir surhumain. Alors, pas toujours surhumain dans tous les cas, mais quand même plus prompt, plus sûr, plus conforme à Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit aussi que les dons sont nécessaires au salut parce que l'homme est ordonné à une fin surnaturelle, la vision et l'union à Dieu, qui dépasse nos seules capacités, même vertueuses, et nécessite une vraie docilité à Dieu, et donc une vraie docilité à l'action de l'Esprit-Saint en nous. Voilà. Alors, donc, il reprend ces sept dons de l'Esprit-Saint et il leur donne une tonalité pour chacun. Alors, je trouvais ça important de les balayer un peu. Il y a plein de définitions possibles, plein de façons de les présenter. Voilà, moi, je vous présente celle plutôt... Alors, c'est à l'école de Saint-Thomas d'Aquin, j'ai pas repris toutes ces phrases. Hein, c'est pas toujours complètement facile à lire. Donc la sagesse, donc il perfectionne la charité. Donc, vous voyez, il fait le rapport aussi avec la vertu de charité. Donc c'est intéressant parce qu'il fait vraiment le pendant qui donne comme un booster ou un accélérateur à la vertu. Qui perfectionne la charité en donnant un jugement selon Dieu, par connaturalité. Elle fait goûter les choses divines et ordonne toute la vie à la fin dernière. Donc c'est aussi un don de contemplation à travers ce don de la sagesse. C'est de contempler à l'école, enfin avec les yeux de Dieu. Donc l'intelligence, c'est un don d'intellectus qui donne de pénétrer le sens intérieur des vérités révélées. Donc il ne rend pas spécialement plus intelligent pour comprendre le devoir de maths ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment dans le domaine des vérités révélées. Il rend l'esprit prompt à saisir les premiers principes de la foi et à demeurer ferme dans la vérité. Donc là, on est aussi très en lien avec la vérité et le discernement aussi. La science, donc, il fait juger droitement des réalités créées en les rapportant à Dieu. Il discerne ce qui conduit à la foi et ce qui en détourne et aide à user du monde sans s'y attacher. Donc ça, c'est la juste mesure entre la contemplation de la création comme œuvre de Dieu et pas comme un absolu. Et c'est une manière d'essayer de comprendre cette création ou de l'utiliser, entre guillemets, à la manière de Dieu. Voilà, donc c'est en référence à Dieu. Donc vous voyez que quand même souvent en référence, c'est se mettre dans la configuration, la connaturalité, comme dit saint Thomas, avec Dieu. La force, donc, il perfectionne la vertu de force. Donc, et c'est aussi une vertu, la force. Et là, c'est le don. En faisant tenir bon dans les difficultés et supporter les épreuves pour le bien, il donne hardiesse et persévérance jusqu'au témoignage, voire au martyr. Donc, c'est vraiment la force de saint Étienne qui est capable de pardonner alors qu'il est lapidé. Le conseil, donc, il perfectionne la prudence en rendant l'âme docile à l'inspiration divine dans le choix des moyens. Il fait discerner ici et maintenant ce qu'il faut faire ou éviter. Donc là, c'est aussi le discernement entre le bien et le mal. Donc, vous voyez, c'est assez proche quand même. Chacun est relativement proche les uns des autres. C'est pour ça que la liste peut être différente dans la façon de présenter. La piété, donc, qui incline filialement à honorer Dieu comme Père et à servir les frères. Il donne une affection simple et prompte pour le culte divin et pour la communion ecclésiale. Donc là, c'est vraiment se concevoir comme enfant de Dieu. Voilà, et être réalisé cela. Et la crainte, don par lequel on révère Dieu et l'on redoute de s'en séparer par le péché. Donc, c'est pour ça que le mot crainte, il est associé non pas à la crainte de Dieu directement, mais à la crainte d'être séparé de Dieu finalement. C'est ça la peur qu'on a. Elle fonde l'humilité devant la majesté divine et tient l'âme dans la dépendance et membre de Dieu. Donc la crainte, c'est à la fois, surtout combiné avec la piété, la crainte, c'est bien comprendre que Dieu, il est tout autre et largement au-delà de nous, et qu'il y a un abîme entre lui et nous, et en même temps, par la piété, qu'on peut être enfant de Dieu. Et donc il y a cette humilité de se reconnaître à la fois que seul Dieu peut nous rapprocher de lui. Donc on voit que ces dons sont étroitement liés les uns aux autres, ils se déploient durant toute la vie du chrétien, selon les besoins de chacun, et selon les besoins aussi du moment, ou des états de vie qu'on a, ou de la configuration du contexte où on est. Donc évidemment, ils se proposent... je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de pluriel. Il se propose sans s'imposer. Ah non, c'est l'Esprit Saint. Il guide notre vie à condition que nous l'écoutions pour agir au souffle de l'Esprit. Dieu nous précède toujours. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, rien n'est impossible. Donc c'est vraiment nous donner ce qui est à taille humaine et pas possible, et nous donner la capacité de Dieu. Le pape François a fait des catéchèses d'avril à juin 2014 sur le thème des dons du Saint-Esprit. Donc, il en a fait 7. Donc, il a repris 7. Donc, il y a 7 catéchèses que je pourrais vous envoyer à lire. Voilà. Ils sont très rapides à lire. Donc, voilà. Plutôt que de vous les rebalayer chaque don, j'ai plutôt essayé de regarder qu'est-ce qui était plutôt commun ou transverse à tous ces dons du Saint-Esprit, d'après le pape François. Donc déjà, 7, pourquoi on s'arrête à 7? C'est aussi que ça signifie la plénitude et la totalité. Donc voilà, c'est aussi les chiffres sont toujours un peu symboliques aussi dans ce qui est retenu. Donc le don par excellence, c'est le don du Saint-Esprit. C'est lui qui est le don par excellence. Et donc les dons dont on parle du Saint-Esprit, c'est des tonalités que le Saint-Esprit actionne en nous. Donc, divers dons spirituels, il ne s'agit pas de qualités isolées, mais des manières concrètes par lesquelles l'Esprit Saint fait grandir le chrétien dans une vie vraiment évangélique. Plusieurs lignes de force reviennent donc un peu à travers tous ces dons. Donc, il y a toujours cette dimension filiale, entrer dans l'intimité de Dieu. Les dons naissent et mûrissent dans la communion avec le Seigneur. Donc, l'Esprit établit sa demeure au cœur du croyant. Donc, on est vraiment le... C'est vraiment l'idée d'être le temple du Saint-Esprit et du coup, que l'Esprit puisse se déployer et nous mouvoir. Voilà. Donc, ça nous rend proche, confiant, capable de dire « Abba, Père » et de se remettre entre les mains de Dieu comme un enfant avec son Père. Donc, le Saint-Esprit nous met éminemment dans cette configuration de pouvoir parler au Père comme un enfant. Il y a quelque chose autour de prendre le regard et un jugement selon Dieu. Donc, en fait, c'est la connaturalité ou la configuration en Christ, il nous transfigure de l'intérieur pour que on comprenne et discerne autrement, c'est-à-dire qu'on voit avec les yeux de Dieu, qu'on entende avec les oreilles de Dieu, les oreilles du Fils, du Christ, voilà, et qu'on soit dans la même, dans cette disposition du cœur du Christ. Il y a toujours un lien étroit avec la foi et la parole. Donc les dons ne court-circuitent pas la foi, ils l'illuminent, ils ouvrent l'intelligence du cœur pour comprendre l'évangile, relire les événements, comme pour les disciples d'Emmaüs, qui tout d'un coup, redécouvrent le don du Saint-Esprit et réalisent qui est Jésus, et entrer plus profondément dans le dessein du salut. Donc il y a vraiment l'Esprit Saint, il nous tourne beaucoup, il nous révèle ce qui est, il vous révélera tout, et donc c'est bien cette action-là qui est là aussi dans ces dons. Alors la prière comme condition d'accueil et d'exercice, donc le pape François revient explicitement sur la nécessité de faire place à l'esprit dans une prière simple, quotidienne, présentée comme le lieu où Dieu conseille, réchauffe, fortifie, éclaire et pacifie. Et donc cette idée de vivre avec Dieu et donc que ce soit fréquent pour que l'esprit puisse vraiment habiter en nous. Et donc la prière, c'est une disposition pour accueillir ces dons du Saint-Esprit. De la même façon que la prière, il y a la dynamique de louange, de gratitude et d'émerveillement. Donc là, c'est aussi toute la, tout ce qui est autour du voilà, réaliser toute l'ampleur de la création, réaliser toute l'ampleur de qui est Dieu. Donc on l'a dans les dons de piété, dans les dons de science, voilà, qui sont cette reconnaissance de l'immense amour de Dieu pour nous et de tout ce qu'il a fait pour nous. Il ne faudrait pas croire que ces dons du Saint-Esprit sont seulement pour des situations extrêmes où il faudrait agir héroïquement, mais sont aussi pour la vie ordinaire. Et donc, en fait, pour pouvoir tenir d'ailleurs dans les événements, situations extrêmes, il faut être fidèle dans la monotonie et la grisaille du quotidien. Une dimension ecclésiale et communautaire. Donc là, c'est toujours cette dimension où si l'esprit, là, il est que individuel et un peu mode privé, c'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous rend membre du corps du Christ, donc il nous fait membre de l'Église, épouse du Christ. Et donc il est dans cette dimension ecclésiale, c'est important. C'est là qu'on reçoit aussi un certain nombre de dons et c'est là qu'on va les utiliser au bénéfice de nos frères et sœurs, ou pour le témoignage, ou pour le conseil, pour etc. Il suppose de déplacer nos attitudes. Donc, les dons, ça nous permet de nous déplacer de logiques de type plutôt liées au péché, égoïsme, fermeture, découragement, aux attitudes du Christ. Donc, c'est ce que nous dit Galates. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et on pourrait rajouter aussi service, courage, docilité, respect de la création et vigilance face au péché. Voilà, et tout ça, c'est des fruits de l'esprit qui nous mettent dans la configuration du cœur du Christ. En fait, quand on lit ces dons du Saint-Esprit, on voit qu'il y a un portrait spirituel qui est très proche des béatitudes. Finalement, ils conduisent à la pauvreté du cœur, se connaître petit et tout attendre de la grâce, à la douceur, piété liée à la douceur et au service, à la fin de justice, discernement pour choisir le bien, à la miséricorde, proximité concrète avec ceux qui souffrent, à la pureté du cœur, regard ajusté à Dieu, à la paix, sagesse qui réconcilie, conseil qui oriente, et au courage dans l'épreuve, force qui soutient la fidélité. Et donc on a quelque part les dons qui rendent possible de l'intérieur la vie des béatitudes, et donc le programme que le Christ nous propose sur la montagne. Les dons du Saint-Esprit sont un unique mouvement. L'Esprit nous fait entrer dans la proximité de Dieu, nous donne son regard sur les réalités, nourrit la foi par la compréhension de sa parole et transforme nos choix concrets au quotidien et dans l'épreuve en une vie de prière, de louange, de douceur, de courage pour l'édification de l'Église et le témoignage de l'Évangile. Ces dons du Saint-Esprit, on les a quelque part dès le baptême, on les a confirmés à la confirmation. Et puis, on peut les avoir aussi en faisant appel au Saint-Esprit, et c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie sur l'effusion de l'Esprit. Donc déjà, c'est prendre au sérieux ce que Jésus nous a dit, ce qui est qui nous a demandé de demander l'Esprit. Voilà. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Et je ne suis pas sûre que dans cette phrase, il parle d'une seule fois. Donc voilà, on peut lui demander plusieurs fois. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Donc il y a quelque chose de ça dans cette effusion de l'Esprit Saint qu'on demande. Et donc c'est une question de foi. Quand on prie pour le baptême dans l'Esprit Saint, pour l'effusion de l'Esprit, on croit que Dieu entend nos prières. Et en fait, ça s'appuie sur cette foi aussi qu'on est ancré dans le temps et qu'il est nécessaire de renouveler le lien avec le Christ, de le revivifier et de progresser dans la connaissance et l'amour du Christ, dans le don de notre vie au Seigneur et à nos frères, sans mettre de limite à l'action de l'Esprit-Saint. On est dans la dimension du temps, notre configuration, elle change, notre contexte, il change, notre mission, notre vocation, elle peut aussi évoluer. Et du coup, on a besoin d'être vivifié aujourd'hui pour répondre à l'amour du Christ et donner notre vie. Donc on a ce besoin dans le temps de rafraîchir, de revivifier, je ne sais pas quel est le bon terme, pour renouveler, ou peut-être réouvrir notre cœur pour que le Saint-Esprit agisse en nous, puisqu'il a établi sa demeure à notre baptême, et encore plus à notre confirmation. Donc il est là. C'est plutôt nous qui ne sommes pas là, comme dit Saint-Augustin. Benoît XVI, alors je vous fais trois références. Donc Benoît XVI, il n'y a pas que le pape François. Donc dis-toi, parce qu'après j'ai le pape François quand même. Donc Benoît XVI, il a dit en 2008, « Chers frères et sœurs, redécouvrons la beauté d'être baptisés dans l'Esprit Saint. Reprenons conscience de notre baptême et de notre confirmation, source de grâce toujours actuelle. » Donc il y a bien cette idée de redécouvrir, de rafraîchir et de renouveler la joie d'avoir été baptisé et confirmé. Le pape François, dans le discours à la 37e convocation nationale du renouveau dans l'esprit, « Vous, renouveau charismatique, vous avez reçu un grand don du Seigneur, vous êtes né d'une volonté de l'Esprit Saint comme un courant de grâce dans l'Église et pour l'Église. » On creusera après cette idée de « vraiment, c'est dans l'Église et pour l'Église. » Voilà. Il ne s'agit pas juste de se faire sa petite effusion dans son coin. Et puis, un texte de la commission doctrinale, alors ICCRS, je ne sais pas ce que c'est, intégré à Carré, je ne sais pas non plus ce que c'est, qui a écrit sur l'effusion de l'esprit. « Demandons à la Vierge Marie d'obtenir aujourd'hui aussi pour l'Église une Pentecôte renouvelée qui insuffle en chacun, spécialement les jeunes, la joie de vivre l'Évangile et d'en témoigner. » Donc, il y a voilà, cette réaffirmation ou ce nouveau souffle de se dire il faut redemander, il faut demander l'Esprit Saint. Donc l'idée, c'est pas de demander une grâce particulière, c'est vraiment le sujet de prendre à cœur pleinement la radicalité de notre baptême et donc de vivre pleinement ce baptême qu'on a reçu en chrétien à la stature du Christ, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, et on peut reprendre toute l'épître aux Romains de saint Paul. Qui nous dit comment c'est quoi vivre son baptême pleinement. Voilà. Et donc, quelque part, cette demande du Saint-Esprit, c'est le désir de remettre la direction de sa vie entre les mains de Dieu. Demander une effusion n'est pas demander un autre esprit ou un nouveau sacrement, ou je ne sais pas quoi, mais une plus grande docilité à l'esprit déjà donné. Et quand on dit être rempli de l'esprit, ça signifie recevoir cette disponibilité, cette liberté intérieure, une foi plus vive et parfois des charismes ordonnés au bien commun. Ce qui est dit dans 1 Corinthiens, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Et c'est ce que Moïse avait dit quand il était avec un certain nombre d'anciens sur la montagne de Sinaï, et il a reçu voilà, les tables de la loi, etc. Et il revient dans le camp et on dit « Ah là là, il y en a deux qui étaient restés, qui n'étaient pas rejoints », et il commence à prophétiser. Arrête-les. Et donc il dit, mais non, il ne faut pas être jaloux. Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Voilà. Et donc c'est vraiment ce souhait de Moïse qui finalement s'accomplit dans le baptême, dans la confirmation, mais chaque fois qu'on demande l'Esprit Saint. Et on a le droit de dire le Veni Creator, par exemple, tous les jours, ça peut le faire. À côté donc des dispositions stables que sont les vertus théologales, il y a des dons plus particuliers distribués selon la sagesse de l'esprit. Ils peuvent caractériser tel ou tel croyant. Et ce qu'on nomme les charismes, celui de la parole, de l'action charitable et de tant d'autres, qui ornent l'Église dans son infinie variété. Voir la pléiade d'ordre religieux, chacun avec son charisme. Paul précise qu'ils sont toujours donnés par l'esprit en vue du bien commun. Ces dons peuvent être plus ponctuels et pousser le croyant à telle ou telle action décisive pour le bien de toute l'Église. Là, c'est le père de Vorge qui nous disait ça. Il y a un bout des guillemets. Alors, c'est clair que le baptême et la confirmation donnent l'esprit une fois pour toutes, mais que la vie de l'esprit se reçoit sans cesse. Donc, il y a dans le baptême et la confirmation, qui sont des sacrements, donc ils impriment un caractère, une marque spirituelle durable, et communiquent l'esprit. Donc ça, c'est pas à refaire. C'est pas une troisième, après la baptême et la confirmation, on a une troisième version. Non. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la plénitude vécue de ce don, donc c'est de notre côté de la réception, dans la Bible, on voit des personnes déjà disciples recevoir des effusions nouvelles pour la mission, la louange, la consolation, l'hardiesse missionnaire. Ainsi, dans les Actes des Apôtres, on a, par exemple, en Acte 4, quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient la parole de Dieu avec assurance. Donc là, il y a une effusion supplémentaire qui n'est pas liée à la confirmation. Voilà, et qui est donné parce qu'à cet endroit-là, il devait dire la parole de Dieu avec assurance. Pierre parlait encore, quand l'Esprit-Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit-Saint avait été répandu. En effet, on les entendu parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Alors là, on est même en plus avant le baptême et la confirmation. Mais bon, c'est quand même cette idée que ça déborde sacrement, parce qu'il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui continuent après. Donc on peut demander et recevoir une effusion de l'esprit alors qu'on est déjà baptisé et confirmé. Parce que si les sacrements de l'initiation donnent réellement l'Esprit Saint, leurs fruits peuvent être déployés, ravivés et intensifiés au fil du temps, selon la disposition de la personne et les grâces actuelles que Dieu donne. Alors, on appelle, je trouve que le terme est relativement mauvais, l'effusion dans l'esprit, on l'appelle aussi parfois baptême dans l'esprit, ce qui du coup crée de la confusion, comme s'il y avait un autre sacrement. Voilà, donc baptême, c'est en termes génériques, ça pourrait être, mais du coup, c'est un petit peu ambigu, donc je m'en tiens plutôt, moi, à effusion dans l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de huitième sacrement, et comme si, mais c'est plutôt une grâce de donner, de renouveler tous les sacrements. Donc, c'est quelque part, les sacrements, ils agissent objectivement, ex opere operato. Dieu donne ce qu'il promet, c'est un don objectif. Donc, ça, c'est réel, on est baptisé. C'est pour ça que les gens qui demandent à être débaptisés, ça n'a aucun sens. Voilà. Ils ne le savent pas, mais ça n'a aucun sens. Leur fécondité dépend aussi de la réception subjective. Donc là, on est de notre côté et du côté de la subjectivité. Foi, conversion, prière, abandon, absence d'obstacles, désir de Dieu, désir de servir les plus pauvres. C'est ça qu'il faut. C'est là où l'esprit peut. On peut redemander l'esprit pour être plus ouvert à ça et pour pouvoir que notre subjectivité, elle soit plus réceptive au Saint-Esprit. Et donc, une personne qui a reçu sacramentellement l'esprit, surtout quand on l'a reçu bébé ou enfant, on peut très bien avoir un peu laissé tomber tout ça et que tout ça couve et que ce soit pas très vivant. Et donc, il peut y avoir un renouvellement dans l'Esprit Saint et donc une redécouverte de cette présence de l'Esprit en nous. Voilà. Donc le père, quant à la Messa, théologien de la maison pontificale, nous dit « Le baptême dans l'esprit n'est pas un sacrement, mais il est relié au sacrement, à plusieurs sacrements en fait, au sacrement de l'initiation chrétienne. Le baptême dans l'esprit authentifie et en un sens renouvelle l'initiation chrétienne. La relation première est avec le sacrement du baptême. Nous croyons que le baptême dans l'esprit authentifie et revitalise notre baptême. Pour comprendre comment un sacrement qui a été reçu longtemps avant, habituellement immédiatement après notre naissance, peut soudainement revenir à la vie et produire tant d'énergie, comme cela arrive à travers l'effusion de l'esprit, il est important de regarder comment nous comprenons la théologie sacramentelle. La théologie catholique utilise le concept de sacrement valide, mais entravé. Un sacrement est entravé quand les fruits qui devraient l'accompagner ne germent pas à cause de certains obstacles. Par exemple, le sacrement du mariage ou de l'ordre reçu en état de péché mortel. Dans de telles circonstances, ces sacrements ne peuvent apporter aucune grâce à ceux qui les reçoivent jusqu'à ce que l'obstacle du péché soit enlevé par la pénitence. Ceci réalisé, le sacrement est dit revivifié grâce à son caractère indélébile, même si nous sommes infidèles parce qu'il ne peut se renier lui-même. Donc Dieu reste fidèle et donc le sacrement, il est là. Voilà. Et cette idée de entraver, ça fait penser aux semeurs là, qui sèment et puis il y a les cailloux, la sécheresse, les ronces et tout ça. Voilà. Donc on peut avoir ces entraves et ce jeu-là qui fait qu'on a étouffé, qu'on n'a pas laissé les fruits s'épanouir. Et donc, ça reste. C'est pour ça qu'on parle de virtualité, quelque part, des sacrements. Si on ne les laisse pas fructifier, ben en fait, Dieu ne nous impose pas les fruits. Il ne renie pas son sacrement et ce qu'il a donné. Mais il ne nous impose pas les fruits. Et donc, du coup, ben, il ne va pas se passer grand-chose. Mais du coup, voilà, il nous donne quand même cette possibilité de réveiller ça et de le revivifier pour pouvoir reprendre cette ouverture. Et nous réouvrir à ça. Ensuite, je voulais vous montrer une typologie de parcours, ce qui s'appelle des parcours pour l'effusion dans l'esprit, pour voir un peu les composantes qui sont là-dedans et voir du coup dans quel cadre ça se place. Personnellement, je n'en ai pas fait, donc j'ai été regarder dans des lectures ce qui se passait. Voilà. Donc ce chemin, donc là c'est un parcours qui est proposé par je sais même plus qui. Enfin, et j'ai vu plusieurs endroits et sœur Françoise, à la fois Françoise et petite sœur Blandine nous avaient un peu décrit aussi ces choses-là puisqu'elles ont fait des parcours d'effusion. Ce chemin a pour but de conduire à chacun à accueillir et être rempli de l'Esprit Saint en vue de grandir en disciple missionnaire. Donc ça c'est vraiment l'objectif du parcours d'effusion de. Le baptême dans l'Esprit Saint est une démarche personnelle où chacun décide en conscience de déployer toutes les grâces reçues au baptême. Donc, il s'agit d'un déploiement, fructification. Lors du baptême dans l'Esprit, trois questions sont posées. Reconnais-tu Jésus comme ton sauveur et Seigneur ? Acceptes-tu de lui donner ta vie toute ta vie et acceptes-tu d'accueillir et de déployer les charismes que l'Esprit Saint te donnera pour l'Église et le monde ? Quand on répond oui à ces questions, ce qu'on accueille, c'est en pleine conscience l'Esprit Saint, comme les apôtres quelque part à la Pentecôte, et notre vie peut être renouvelée par cette rencontre vivante du Christ, reconnu comme Sauveur et Seigneur, par un désir nouveau de lire la parole de Dieu, de prier personnellement et en groupe, et par l'accueil des dons spirituels au service de la mission. Et donc, quelque part, ces trois questions, elles donnent bien le cadre, on est exactement dans le cadre de l'Église, dans le cadre du baptême, et on est bien, effectivement, de rattacher à l'Église. Voilà. Donc, dans le déroulé, les caractéristiques d'une assemblée de prière où il y a une proposition de d'effusion de l'Esprit ou de baptême de l'Esprit, sont, donc il y a la louange, donc c'est se reconnaître, donc là on est aussi dans les thématiques de s'ouvrir, donc c'est aussi rendre grâce à Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, donc c'est vraiment pas du tout compétition, c'est pas juste on va recevoir le Saint-Esprit, donc tout le reste, on n'a pas besoin du Christ, on n'a pas besoin de la parole, si. L'expression des charismes, donc notamment le chant en langue, donc c'est de la glossolalie, forme de prière individuelle ou collective, murmurer, parler ou chanter, qui loue Dieu et aide à adhérer à sa volonté. Donc on voit dans 1 Corinthiens que saint Paul exerce lui-même ce charisme. Et puis le charisme de prophétie avec des paroles ou messages que transmet de la part de Dieu une personne qu'il a reçue dans la prière. Paroles inspirées par l'Esprit qui est destinée à édifier, consoler, exhorter, éclairer le groupe ou un membre du groupe. Et enfin, il y a toujours une dimension fraternelle, que ce soit par la demande de prière ou la prière des frères, ou la demande que les autres prient pour nous ou inversement de proposer de prier pour les autres. Et puis une dimension de partage. Voilà. Donc on a des composantes qui sont tout à fait, qui sont éminemment le programme de vie chrétienne. Voilà. Et c'est important que ce soit vraiment en Église. Donc il ne s'agit pas à côté ou pour compenser le fait que l'Église ne serait pas suffisamment sainte. Mais l'effusion est une rénovation pentecostale, donc comme la Pentecôte a eu lieu dans l'Église avec les apôtres. L'actualisation du mystère de Pentecôte, orientée vers une vie chrétienne plus consciente, plus missionnaire, avec possible réveil des charismes dans le discernement ecclésial. C'est très important dans les parcours et dans les assemblées de prière. Il y a toujours un groupe qui est préparé ou formé pour s'assurer que ça ne part pas n'importe comment. Et notamment sur les paroles de prophétie, qui peuvent aussi être parfois pas du tout ajustées ou pas entendues au bon endroit. C'est-à-dire qu'on peut croire que c'est une parole de prophétie. Donc un temps aussi de prière et de décantation pour voilà, donc c'est l'idée de voilà, l'Église, elle est aussi notre, parce que l'Église c'est celle qui est le lieu où opère le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs l'Église qui est le temple du Saint-Esprit, et donc l'Esprit Saint s'exerce de manière privilégiée dans l'Église. On sait que l'Esprit Saint et Dieu, il peut très bien agir en dehors de l'Église, mais ça, c'est son sujet. Mais nous, il nous a donné l'Église, et c'est au sein de l'Église et en tant que membre du corps du Christ que tout cela agit de façon ordonnée pour vraiment pour Dieu. Par son enseignement, il introduit dans l'intelligence du mystère du Christ et de la révélation du Père. Il est l'âme de l'Église, la construisant par ses charismes, assurant son unité, très important, la fortifiant contre les attaques qu'elle peut subir et la poussant à témoigner de ce qu'elle a reçu. L'Esprit construit l'Église pour en faire ce corps qui poursuit dans le monde l'action du Christ. De plus, don eschatologique qui nous permet d'utiliser l'accès auprès du Père que nous a ouvert le Christ. L'Esprit donne aux croyants de vivre déjà de la contemplation de Dieu par la liturgie terrestre, vraie participation à la liturgie céleste. C'est éminemment vrai dans l'Eucharistie. Toutes les épîtres conduisent à dévoiler aux chrétiens la richesse de ces diverses harmoniques de la vie chrétienne afin de fortifier leur marche. Et donc, dans le corps du Christ qui est l'Église, le baptême et la confirmation permettent déjà de recevoir l'effusion d'Esprit Saint dans une croissance spirituelle constante. Et les charismes jaillissent librement dans l'Église selon la libéralité divine et pour le bien de tous. Ils peuvent apporter une note plus grande encore de profusion et de nouveauté et permettre au sacrement de rayonner, j'aurais même dû rajouter, rayonner dans le temps en fait. Aussi de cette idée d'actualisation et de aujourd'hui. Voilà, donc on n'a pas de concurrence entre le baptême, la confirmation, l'effusion dans l'Esprit. C'est une même grâce qui se donne, s'enracine et se déploie. Et donc avec toute l'Église, nous pouvons faire notre l'appel de l'Apocalypse. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, que celui qui a soif vienne. » Donc c'est ça, c'est animer et raviver notre soif du désir de Dieu. Viens, Esprit Saint, pour raviver en nous la grâce baptismale, nous fortifier par tes dons, nous unir au Christ et nous envoyer dans la joie au service de la mission.